Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce second numéro du Footpod, parce qu'on aime bien parler de foot avec Yann qui est présent ici.
On espère que ce second numéro deviendra très vite un deuxième numéro.
Ah, le foot, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a l'Europod et le Footpod.
Et les cartes des maîtres.
Voilà, des maîtres d'école.
Oui, en un mot ou en deux. Bref, on va arrêter les blagues pourries.
Ouais, là, on plane un peu trop.
Disait Plastic Bertrand.
Donc, bref, nous allons donc parler de l'UEFA Euro 2016 qui démarre incessamment.
Ah non, monsieur.
Ou qui a démarré incessamment sous peu si vous êtes en retard dans l'écoute.
Monsieur, c'est pas l'UEFA Euro 2016, c'est l'UEFA Euro 2016 trademark.
TM.
Yeah.
Yeah. Sauf que je sais pas qui c'est T. Alors, il a beau dire qu'il aime l'UEFA Euro 2016. Bon, je m'en vais. Au revoir.
C'est Tahiti, non?
Donc alors, voilà, la France accueille le monde, comme disait Thierry Braillard à son jour de l'euro. En fait, c'est 23 autres pays. Et il n'y aura pas les Pays-Bas.
Non.
Ah, c'est dommage.
J'ai un caillon d'œil aussi.
On verra pas Ariane Robben courir dans tous les sens, c'est dommage. Ouais. Oh. Mais nous verrons plein d'autres joueurs.
On verra pas le pays de Van Nistelrooy faire du hors-jeu passif dans les surfaces.
Nous verrons plein d'autres pays courir dans tous les sens. Dont la France, qui a fait deux superbes matchs amicaux, dont un match extraordinaire sur la plus belle pelouse de France, face aux plus belles pourries.
Face au Cameroun.
Non, ce n'était pas le match à Nantes contre le Cameroun.
C'était le match à Metz.
Voilà, contre tes ancêtres, les Highlanders.
Oui, les Highlanders, les Écossais. Ouais, moi, le Cameroun m'a peu convaincu, très clairement, hein, sur le Cameroun. Ça allait devant, mais ça allait pas derrière.
Le Cameroun, il m'a convaincu. Ils ont bien joué, hein. Ils sont bons, les Camerounais. Ils peuvent aller à la CAN. Hein.
C'est ça.
Vu qu'ils préparaient c'était leur match de préparation pour la qualification de la CAN.
Mais, enfin, voilà, honnêtement, ça m'a pas convaincu, quoi. Ce match face au Cameroun, on a vu que derrière, ils étaient à la ramasse, quoi.
Non, la ramisse.
Oui, ça marche aussi. Enfin, Rami, il a été pris pourquoi? Pour que Deschamps paraisse comme un mec sympa, parce qu'il prend même ceux qui râlent?
Non, c'est parce que je pense que ça doit être le dernier défenseur central français droitier, vu que c'est la raison qu'il a avancé en conférence de presse pour ne pas promouvoir Mangala ou Umtiti titulaire. C'est-à-dire sinon ça met deux gauchers en défense centrale et il veut un gaucher et un droitier. Du coup, il a appelé Adil Rami. Ce qui n'est pas un scandale en soi quand tu vois un peu la saison qu'il a fait avec le FC Séville, il termine quand même vainqueur de l'Europa League, hein. Tout comme Kevin Gamero. Salut Kevin, voilà. Retourne à la maison. Bonnes vacances. Mais, donc voilà, après c'est sûr que le match du Cameroun, j'ai envie de dire, voilà, tout le monde n'était pas encore arrivé puisqu'il manquait encore Griezmann. Et puis voilà, après là, c'était au terme de la première semaine, tout le monde n'a pas le même niveau physique, il faut de la préparation de fond, on peut dire qu'ils n'étaient pas forcément au top.
Non, mais t'as quand même la moitié des joueurs qui étaient cuits. Fin...
Voilà, entre ceux qui étaient dans la remise en forme parce qu'ils jouent pas beaucoup avec leur club, ceux qui étaient dans la récupération parce qu'ils jouent beaucoup avec leur club, on peut comprendre qu'ils soient pas forcément physiquement au top. Et d'ailleurs, je préfère qu'il ne soit pas physiquement au top contre le Cameroun, mais qu'il le soit contre la Roumanie, hein, parce que sinon...
Non mais oui, ça je peux comprendre.
Enfin, ça m'aurait inquiété qu'il soit au top physiquement contre le Cameroun, j'allais dire deux semaines avant l'Euro. Oula.
J'ai pas vu la saison d'Adil Rami, mais ce qui était bon...
Enfin voilà, après tous ceux qui ont pu observer, il n'a pas été mauvais, je ne vais pas dire non plus que c'est le meilleur défenseur central du championnat d'Espagne ou de l'Europa League, mais...
Parce que moi, enfin, je l'ai trouvé à la ramasse, sur les deux matchs. Hein.
Mais après...
C'est-à-dire que les deux matchs, il a eu le seul mérite qu'il a eu, c'est que la France, que les attaquants en aient mis trois pour que les Écossais arrêtent de jouer, quoi.
Oui, enfin, ils n'ont pas vraiment joué non plus quand ils étaient à 0-0. Je te rappelle quand même que l'attaquant titulaire vedette de l'Écosse, c'est Fletcher, le mec qui a mis 3 buts avec Marseille en 19 matchs.
Oui, ça, oui. Ah, mais l'Écosse, ils sont bien à la ramasse aussi.
Ah, il leur manque le joueur qui peut faire la différence, comme le Pays de Galles qui est devenu une terreur européenne parce qu'elle a Gareth Bale, quoi.
C'est ça.
Mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que l'Écosse, ça reste une nation très intéressante, notamment avec la passion du foot, bah, des joueurs et des supporters, quoi. Bah, pour ouais. en avoir croisé deux, trois groupes, là, dans Metz, sont juste géniaux. Enfin, j'imagine pas des Français se comporter comme eux à l'étranger, d'être là à fond la caisse dans les rues deux jours avant le match, quoi. Bah, regarde, là, on enregistre l'émission 48 heures avant le premier match de l'équipe de France. Tout le monde s'en fout. Il y a quasiment pas un drapeau, rien de, dans les rues pour dire ouais, ça va être l'Euro, ça va être la France, ça va être génial.
C'est en train d'arriver un peu, quoi.
Heureusement qu'il y a les commerces qui veulent te vendre toute la panoplie des. Tu vas dans les commerces, tu vois des trucs, des drapeaux bleu, blanc, rouge, des casquettes euro, des trucs comme ça, mais dans les rues, enfin, tu... À part les tout jeunes, j'ai envie de dire, parce que... Tu vois, les 6-10 ans, quoi, qui ont des...
C'est ça.
Mais sinon, enfin, bah, après, c'est comme, j'ai envie de dire, comme toute compétition en France, hein, tant qu'on n'est pas très loin et très proche de gagner, les gens, ils s'en foutent.
Sauf la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où les gens voulaient voir perdre, donc ils ont tous regardé.
Non mais enfin reviens en 98, c'est pareil quoi, la folie populaire elle a démarré quand à partir des quarts de finale.
Après le Paraguay, ouais c'est ça.
Voilà, c'est vrai que le suspense contre le Paraguay, le but en or de Laurent Blanc change tout quoi. Donc du coup, oui, c'est à partir des quarts de finale mais avant, c'est vrai qu'après c'est aussi compliqué de se passionner pour l'Euro quand tu penses que j'ai envie de dire les deux tiers de la France sont loin de stade, hein, tout l'ouest rien à foutre, tout l'est rien à foutre.
Il n'y a pas de match à Nantes ?
Ouais, mais Nantes, ça compte pas. Non, ça compte pas, Nantes, puisque... Non. Si ? Non ? Ouh, bonne question.
Je suis en train de vérifier. Je te laisse.
Parce que du fait qu'ils ont eu un match préparatoire, je crois pas qu'ils doivent en avoir un.
Ah si, parce que 15 jours avant,
c'est je sais pas, on colle Lens et Lille, Saint-Etienne et Lyon, merci bien. Et le reste de la France, non ? Enfin, on a vu, là, le match contre Metz, le public messin est parfaitement capable d'être fantastique, hein.
Alors les 10 stades, pardon, autant pour moi. Les 10 stades sont Saint-Denis évidemment, Paris, le Parc des Princes, Bordeaux, Toulouse, donc là il y a un peu le sud-ouest, le Vélodrome, Nice, Saint-Étienne, Lyon, Lens et Lille.
Tu vois, tout ce qui est Bretagne, bon, la Normandie peut encore se déplacer sur Paris parce que c'est pas extrêmement loin.
Ça va
loin.
Assez vite. Hein.
Non, mais bon, voilà, toute la Bretagne, toute la Loire-Atlantique bah, tout le Grand Est, voilà. C'est un peu comme le Tour de France, quoi. Enfin, le Tour de France, bah, si t'habites pas dans les montagnes, t'as pas le droit de voir les vélos, quoi.
Alors ça dépend, parce qu'une année, ensuite, les autres années, ils peuvent passer. Alors
que enfin, c'est de plus en plus au Tour de France, c'est en train de devenir 2 semaines et demie de montagne et 1 demi-semaine à l'étranger et à Paris. Hein.
On verra.
Ah, Christian Prudhomme, il veut mettre que des montagnes, en fait. Ça fait de l'audience.
Ah, en même temps, il se passe quelque chose. Le plat, ils n'arrivent pas à faire des trucs. Mais on n'est pas dans un cyclopode.
Ça sera pour le... Après le
voilà, c'est
cyclopode,
ça.
On fera le...
Pour la fin, à partir des quarts de finale, vous pourrez suivre en parallèle le cyclopode, voilà. Ou pas.
Et après le jopode. Non, c'est bon. Donc le deuxième match contre l'Écosse, le problème, c'est qu'il a servi à rien, quoi, ce deuxième match. Du fait que les Écossais étaient totalement en vacances, hein, ça s'est senti.
Les Français aussi.
Bah oui, mais du coup, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, pour jouer au foot, il faut être deux. Hein. Et là, clairement, il manquait la deuxième équipe. Quoi. Les Écossais n'ont strictement rien à jouer. Tu sentais bien que la moitié des joueurs, quand tu avais passé les 60 minutes, bah, plus qu'une demi-heure, plus que 25 minutes, plus que 20 minutes, plus avant d'être en vacances.
Ah, la deuxième mi-temps était une purge. La deuxième minute aussi, tu me diras. Mais...
Après, c'est les matchs amicaux avec 6 changements de chaque côté. Comme Max l'avait fait remarquer, je crois que même 10 jours après, il est en train de toujours chercher à quoi ressemblait le système de jeu de l'équipe de France en deuxième mi-temps contre le Cameroun. Le système tactique, il ressemblait plus à rien.
Bah déjà, et puis même le système de jeu français en deuxième mi-temps contre l'Écosse, ça m'a inquiété un peu, quoi, parce qu'un Griezmann, il a pas joué, il marchait.
Ouais, mais Griezmann, il sort d'une saison à quasiment 60 matchs. Une semaine avant, il était en train de se remettre de sa défaite en Ligue des Champions. Bah, le mec, t'as peut-être quand même le droit. Il peut comprendre que t'aies pas envie. Je comprends qu'il est pas forcé non plus. Encore une fois, je préfère que les mecs soient à fond la caisse lors de la compétition que des matchs amicaux.
Je peux te comprendre aussi, si tu veux. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce mec-là, il n'aura joué que 45 minutes en marchant pour préparer le système de jeu.
Bah, d'un autre côté, il est connu le système de jeu, je veux dire, c'est Didier Deschamps, tu sais que c'est le 4-4, c'est le 4-3-3, enfin, je t'ai fait la liste des 23 qu'il a communiqué là, le 12 mai, enfin, je les ai tous trouvés, c'est absolument pas une surprise. Vrai. Ça fait 2 ans qu'il joue en 4-3-3, il va pas changer comme ça, juste à 2 semaines de la compétition, c'est pas possible. Surtout, surtout que t'as une équipe, t'as toute une défense qui est à la ramasse, t'as un milieu de terrain qui est à la ramasse, tu peux pas te permettre de changer le peu de repères qu'ils ont.
C'est ça. Ouais, devant, tu peux pas non plus changer.
Donc, voilà, il a déjà joué dans le 4-3-3, là, les 2 matchs contre les Pays-Bas et la Russie, et puis même les 2 matchs qu'on avait eu au mois de novembre.
Contre l'Angleterre. Ouais, mais je compte pas Wembley, moi.
Oui, mais bon, enfin, je veux dire, oui. Oui, c'est vrai que les circonstances faisaient que, mais voilà, enfin, voilà, c'est le système, il est connu, le positionnement est connu, les automatismes devant, ça prend aussi, donc bon, voilà, maintenant, il faut qu'il soit prêt le jour J, c'est-à-dire ce vendredi.
Effectivement, le 10 juin, on espère qu'ils seront prêts.
D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'inquiète, parce que finalement, ça fonctionnait très bien sans lui.
Oui.
L'animation offensive fonctionnait très bien sans lui, mais voilà, pour en revenir à ce France-Écosse, enfin, le gros intérêt, c'était pas l'animation offensive. Au niveau offensif, on a 2 paires de 3 qui sont de niveau titulaire, donc c'est pas un problème. C'était défensif, ça aurait été sympa d'avoir une équipe qui joue un minimum pour avoir Rami et Koscielny qui puissent créer quelques repères. Parce que là, ça va, ouais. Evra, je l'ai jamais vu autant au poste d'ailier, hein, le mec, je pense qu'il y a des moments, pendant un quart d'heure, il n'est pas revenu dans le camp français, tellement il était haut.
C'est pas faux.
Et Saniel a même réussi descendre, c'est de dire le nombre d'essais qu'il a dû faire.
Ouais, c'est pas faux.
C'est voilà, c'est ça le problème. C'est quand tu vas avoir des vrais attaquants, genre Thomas Müller devant toi, même si c'est pas techniquement un attaquant Thomas Müller, mais...
Qu'est-ce qui a marqué en 2014 contre nous?
De quoi, le but de l'élimination?
Le but allemand, là.
De la tête? Je sais plus. Je me demande si c'est
pas Hummels.
De toute façon, il est pas là, Hummels. Donc, c'est réglé.
Mais ouais, on va revenir sur les...
Mais Varane n'est pas là non plus, donc on aura un défenseur qui sautera et qui ira au contact. Donc,
C'est ça. Je tiens à dire d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé les articles du Gorafi. Le Gorafi, hein, tout sur le net, de sources contradictoires depuis 1826.
Tu parlais du chroniqueur, monsieur Hugo Raffi.
Non. Le Gorafi qui a fait des très bons articles du style, malgré l'hécatombe, Didier Deschamps garde entièrement confiance en ses 3 joueurs valides. La cote des Français chez les bookmakers est montée de 10 contre 1 à partir du moment où Jérémy Mathieu a été déclaré forfait. Des trucs comme ça.
Ah là 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 là. Mais bon, après on va revenir plus en détail sur l'équipe de France juste après, mais là on peut peut-être faire un petit tour des autres matchs de préparation des autres nations européennes, et on peut se rendre compte que t'es pas rassuré, il y a quand même d'autres sélections qui peuvent s'inquiéter. Enfin, Malte peut flipper, ils sont quand même pris 6-0 par la République tchèque. Bon, ils s'en foutent, ils vont pas à l'Euro, mais quand même. Mais enfin voilà, quand tu regardes un peu les résultats, c'est pas brillant. Enfin voilà, la Suisse qui perd contre la Belgique 2-1 dans un match où les Suisses auraient pu gagner 2-1, hein, tellement enfin voilà, pour avoir vu un peu plus d'une mi-temps de Suisse-Belgique, on peut pas vraiment dire que ça soit d'être au niveau. C'est rassurant puisqu'on a la Suisse dans notre groupe, c'est inquiétant pour les Belges, hein. L'Allemagne, ouais. Le 29 mai, se fait taper par la Slovaquie chez elle 3-1. L'Italie, péniblement, gagne 1-0 contre l'Écosse, que nous, on a survolé, qu'on a gagné 3-0.
Et puis, l'Angleterre a battu 2-1 l'Australie, quoi. Enfin, alors, les Australiens jouent peut-être très bien au foot, mais il ne me semblait pas qu'ils jouent aussi bien que ça, quoi. Même la Turquie qui bat 1-0 le Monténégro.
Ouais, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, la Turquie, pour moi, ça ne fait pas partie des gros favoris, quoi. Tu vois l'Italie qui peine contre une équipe écossaise en vacances, en gagnant un petit 1-0. Donc, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont vraiment survolé leur préparation. Peut-être l'Espagne, qui bat 3-1 la Bosnie, qui tape 6-1 la Corée du Sud.
Les Portugais, donc on les 3 aux Norvégiens secs. À mon avis, ils ont raté de jouer à 3.
Mais bon, voilà, après... Donc je disais,
j'ai pas vu le deuxième match de préparation du Portugal, je n'arrive pas à le... Si, les Anglais les ont battus.
Donc je te disais, la Belgique qui gagne péniblement 2-1 contre la Suisse, qui fait 1 partout contre la Finlande, les Polonais qui perdent contre les Hollandais,
l'Albanie qui se fait taper par l'Ukraine, et la Roumanie qui bat la Géorgie de façon merveilleuse, mais qui, le coup d'avant, n'arrivait pas à s'en sortir et faisait un pauvre 1-1 contre une équipe paumée, je crois, comme le Congo, ouais, ça le Congo. Donc,
On appréciera quand même la performance de la Croatie, hein, qui bat 10-0 sans Marin.
Ouais.
Les Autrichiens qui perdent contre les Hollandais. Enfin, c'est ce qui va peut-être rendre passionnant cet Euro, c'est que finalement, il n'y a vraiment aucune équipe qui se dégage vraiment.
Moi, je pense que
ça fait pas comme en 2010 ou 2012 où l'Espagne archi dominait le truc et tu te dis ouais, mais bon, les Espagnols vont gagner ou au moins être en finale. En 2014, les Allemands apparaissaient ultra puissants. Mais là, vraiment.
Non, je suis assez d'accord avec toi. Ça va être sur ce point de vue-là assez intéressant. Ensuite, enfin, tu imagines à quel point j'ai hâte de suivre un passionnant Portugal-Islande, quoi.
Ah, ils vont quand même voir que l'Espagne a perdu 1-0 contre la Géorgie ce mardi, quoi. Enfin, la Géorgie. Non, mais c'est voilà, je veux dire, c'est pour moi très inquiétant. Pour les Espagnols, parce que bon, les Géorgiens, ils sont contents. Hein. Et donc voilà, est-ce que toi, tu vois franchement une équipe à te dire, ouais, celle-là, elle sera au moins en finale, quoi, sans trop de difficultés?
Non, je n'en vois pas. Ça, je t'avoue avec toi, mais je suis pas le foot aussi bien que toi. Ça, j'avoue entièrement. Moi, j'ai tendance à supporter l'équipe de France quand c'est un Euro, une Coupe du Monde, et qu'elle est qualifiée.
Je veux dire, je regarde quand même assez rarement les matchs de préparation ou les matchs de qualification des autres pays. Mais bon, c'est vrai que la Belgique, je regarde un peu plus parce que j'ai les chaînes belges, donc forcément.
Mais peut-être que tu suis un peu les résultats aussi, non?
Oui, voilà, je suis les émissions, les résultats, je vois les résumés des matchs, des choses comme ça, mais voilà, enfin, ça reste inquiétant quand même. Même si l'Espagne met une équipe bis, elle doit battre la Géorgie, or là, elle la bat pas. Pour moi, clairement, il y a trois favoris, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et surtout, il y a un lot d'outsiders qui peuvent vraiment avoir une chance, comme l'Angleterre.
Alors, l'Angleterre, à 8h ce matin, mercredi 8 juin, je t'aurais dit l'Angleterre a une chance. Depuis la boulette de l'autre, je ne suis plus sûr.
C'est-à-dire, précise pour nos chers auditeurs.
Je m'explique. L'un des adjoints de Roy Hodgson, du sélectionneur anglais, a par inadvertance montré l'équipe que le sélectionneur anglais comptait aligner face aux Russes. Alors déjà, par inadvertance, je sais pas comment on fait, hein.
Bref, oups.
C'est la boulette. Mais voilà, tu vois, il marchait, et en fait, il y avait le verso du paperboard sur lequel il y avait
un schéma de jeu. Par inadvertance, c'est-à-dire, il y a monsieur inadvertance qui a pris le papier, qui a été l'amené au journaliste. Elle est plaisante, cette équipe, elle est intéressante à voir jouer. Il y a vraiment le dynamisme de la jeunesse. Après, c'est peut-être le problème, c'est que c'est une équipe comme la France, c'est des équipes qui sont très jeunes. Donc, oui. Il y aura peut-être, au moment d'appréhender vraiment la grosse pression, la folie de la jeunesse peut te permettre de passer outre la pression, comme elle peut complètement te paralyser, c'est un gros risque.
Oui.
C'est là
oui.
Qu'il y a l'importance d'avoir des joueurs comme Wayne Rooney en Angleterre ou Patrice Evra en France, des mecs qui ont vraiment une grosse habitude de jouer des très gros rendez-vous et qui peuvent aider les plus jeunes à gérer...
Ouais, alors je suis assez d'accord avec toi. Par contre, je souhaiterais pousser un petit coup de gueule que j'avais peut-être déjà poussé, je ne sais plus. Concernant le calendrier.
Mais il est très bien pour la France.
Alors, si la France arrive première du groupe A, d'accord, elle termine dans le bas de tableau à partir des huitièmes. Sauf qu'à partir des quarts, on a un quart de finale par jour. Ce qui fait qu'il y en a qui vont jouer leur quart de finale le 30 juin, d'autres le 3 juillet.
Ouais, mais après, au niveau des quarts et des demi, il y a toujours eu des injustices. Reprends, en 2014, l'Allemagne qui joue son huitième en soirée, et nous, on le joue en après-midi. Donc, avec les conditions climatiques, ça a changé beaucoup de choses.
Ouais, mais ça, tu vois, il n'y a pas deux jours de décalage ou trois jours de décalage.
Ouais, mais avec
ça
les conditions climatiques au Brésil, crois-moi, quand on joue à 16h et 21h, ils l'ont senti, hein, les joueurs, la différence. Après, ça a été compensé par le fait que les Allemands ont dû jouer des prolongations contre... l'Algérie, si je ne me trompe pas.
Ouais,
la France,
possible.
Non, mais quand même...
Ouais, mais on arrive... Hein, moi, c'est ça que je reproche aussi. On arrive quand même à un point où tu prends le deuxième du groupe A, par exemple, d'accord ? Il va jouer son huitième de finale le 25 juin, 15h. Donc, pour les conditions climatiques, à Saint-Etienne, ça peut être chaud, disons-le clairement.
Oui.
Son quart de finale, dans ce cas-là, s'y passe, est le 30 juin, là où le quart de finale de la France, si elle est première du groupe A, sera le 3 juillet. Il y a 3 jours de décalage entre le jeudi et le dimanche. C'est-à-dire que il y a un quart de finaliste qui va jouer 30 juin, 6 juillet, 10 juillet pour la finale, et un autre quart de finaliste au même point qui va jouer 3 juillet, 7 juillet, 10 juillet. Bah, il y en a un qui va enchaîner 4 et 3 jours, et l'autre qui va avoir 6 et 4. Bah, je suis désolé, au moment de la finale, ça va sentir un truc pareil.
Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, ça se justifie moyennement côté télévisuel, vu comment TF1 et M6 se sont pas empressés d'acheter beaucoup de matchs. Bon, même si à partir des huitièmes, on les voit tous, il me semble.
Oui.
Donc, enfin, on les voit tous en clair, parce qu'on les voit tous, y compris en poule, pour les abonnés beIN Sport.
Et CanalSat depuis, je sais pas quand ça commence.
Ben d'accord, je crois que c'est demain, enfin c'est jeudi, hein. Je crois que l'autorité de la concurrence se prononce sur la distribution exclusive canal satellite de la chaîne beIN Sport. Enfin bon, bref, de toute façon, même après, tu peux diffuser un match à 18h et un match à 21h le même jour, hein.
Bah, c'est ce qui était fait pendant la Coupe du Monde au
Ah,
Brésil. C'est-à-dire que certes, il y avait les conditions climatiques, mais au moins au niveau du nombre de jours de récup, c'était équivalent.
voilà, quand tu vois les... Comment ça s'appelle? Quand tu vois les audiences de Arthur avec son sac à 7, TF1 serait bien content de programmer un match à 17h.
Ah ça, il paraît que c'est un bide complet.
Ouais, non, c'est même pas
Bah,
4%
il
de
a fait
part
comme l'hebdo
d'audience.
show, mais il a voulu le faire quotidiennement, non?
Voilà, sauf que ça fait moins d'audience que l'hebdo show. Et bref, on n'est pas là pour parler d'Arthur, c'est pas le bidpod, hein, non, c'est le footpod. Et donc oui, je suis d'accord avec toi, mais après, voilà, pour moi, il y a toujours eu une forme d'injustice dans les récups, enfin, normalement, oui, normalement, la France devrait être privilégiée en terminant première de son groupe et avoir j'ai envie de dire, la répartition la plus équilibrée du lot. C'est un peu
Ouais.
toujours le cas pour l'équipe qui reçoit à domicile, hein.
C'est de bonne guerre. Ensuite, faut pas trop que ça se voit. Parce que les Brésiliens qui avaient joué leur deuxième match de poule avant, les Russes qui jouaient leur premier à la Coupe du Monde au Brésil, c'était un peu trop visible.
Ouais, mais enfin, ils avaient bien besoin d'aide, les Brésiliens, en 2014, tellement ils étaient mauvais.
Ça, oui, je suis d'accord.
Là. Bref, bon. Donc, avec tout ça, tu m'as toujours pas dit si, enfin, tu vois un favori quand même pour la compétition.
Ben, j'ai du mal à avoir un favori en fait pour cette compétition.
Ah, comme tu disais tout à l'heure, aucune équipe se dégage vraiment.
Les Allemands peut-être.
Les Allemands, enfin voilà, ils ont quand même perdu Hummels, qui est vraiment la tour de contrôle de l'équipe. Ils n'ont pas de vrai attaquant depuis que Klose n'est plus en sélection. Ben, au niveau défensif, c'est plus top top, hein. Ils ont plus comment il s'appelait? Philipp Lahm.
Ouais, c'est vrai qu'il y a l'âme qui a arrêté aussi.
Voilà, enfin je veux dire, la défense allemande a été quand même inquiétante en 2014 jusqu'à ce que Joachim Löw remette Philipp Lahm en défense. Et ça a complètement restabilisé la défense. Voilà, individuellement, ils ont d'excellents joueurs, quoi. Ils ont 11 joueurs qui sont on va dire à chaque poste dans le top 10 mondial, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais je sais pas, collectivement.
Il y a un truc qui passe
Je
pas.
me demande si voilà Joachim Löw a pas fait son temps, quoi. Ça fait super longtemps, ça doit faire 10 ans qu'il est là. Et puis voilà, après c'est le problème, c'est un peu comme l'Espagne, c'est le problème qu'ils ont eu une génération hyper dorée et la relève, elle est bonne, mais c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Alors qu'en France, ben voilà, on avait une équipe qui était pas terrible, la relève, elle s'annonce très très bonne.
C'est ça.
Mais elle manque d'expérience, c'est peut-être ça le problème. Quand tu alignes devant, t'as beau dire, mais Griezmann, il a beau être finaliste de la Ligue des Champions, il a quoi, 22 ans? Quelque chose
Ouais.
comme ça. Enfin, Coman, je sais même pas s'il a le droit de vote. Enfin, j'exagère, mais on n'en est pas loin. Martial, heureusement, il y a Giroud et Gignac. Il compense.
On a une bonne génération, je
Après, le problème,
pense.
Gignac, il a 30 ans, mais il a aucune expérience des très grands matchs, quoi. Du fait qu'il était à l'OM, hein, des grands matchs, il n'en a pas joué. Hein, genre des quarts, demi-finales, finales de compétition européenne, ça, bah non. Hein.
Non, je pense qu'on a on a une bonne relève. Le problème, c'est que j'ai peur qu'elle soit un peu jeune. En même temps, on disait, pardon, déjà ça en 2014. Et on n'a pas fait un mauvais parcours en 2014. On n'a pas fait le parcours du siècle, certes,
Ouais, mais
mais on n'a pas fait
on peut
un.
quand même s'y mordre. Hein. En quart de finale, l'Allemagne était extrêmement prenable. Hein.
Ah oui, ça oui.
Et après, je pense que c'est physiquement le problème. C'est voilà, un joueur comme Matuidi. C'est le problème, c'est que il a fait une très bonne phase de poule en 2014, et tu commençais à voir en huitième qu'il commençait à peiner, et en quart de finale, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Hein. Il sortait d'une énorme saison avec Paris. Là, il a fait une saison un peu moins formidable avec Paris, donc il a peut-être un peu plus de réserve, mais c'est ce qui me fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, impérativement remporter les deux premiers matchs pour pouvoir faire tourner au troisième match.
Ouais, et souffler un coup.
Ah oui.
Alors l'avantage, c'est que...
Tu vois, comme tu dis, Griezmann, il n'aura même pas deux semaines depuis sa défaite en finale de Ligue des Champions.
Il aura deux semaines moins un jour, oui.
Donc, voilà, il a eu aucun temps de récupération. J'ai peur que, voilà, quand on arriverait en huitième, quart de finale, il commence à vraiment piquer du nez. Hein.
Est-ce qu'il serait normal?
Ben oui, ils sont pas des surhommes. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans tous les sports. Tu veux pas du dopage, mais tu leur mets des calendriers impossibles à tenir sans se doper, quoi. Enfin, il arrive un moment, tu peux pas faire les deux.
Le problème, c'est qu'on est dans un sport business et que ça se voit de plus en plus. C'est-à-dire que ça s'est déjà bien vu en 2014, hein, reprendre le...
Enfin, c'est même plus... C'est plus le sport qui est un petit peu business, c'est le business qui est un petit peu sportif.
Ah, mais ça, oui. Mais évidemment. Évidemment. Après... C'est bien ce que je reproche à ce sport, voilà. À tous les sports. Mais...
Après, je pense, bon, après, au-delà d'une question d'âge, c'est que... on a un entraîneur qui aime bien une assise défensive, et là, en fait, il faut tout miser sur l'attaque en France, parce que tu sais que tu vas te prendre des buts. Donc, l'objectif, il faut impérativement en mettre un de plus que l'autre. Alors, l'idée de se dire, on en prend un de moins que l'autre.
Ouais, mais c'est le but du foot, au final, non?
De jouer.
Marquer un but de plus.
Puis c'est un phénomène, je trouve, depuis 2014, on commence à le retrouver, où il y a beaucoup plus de joueurs offensifs, de talents. Un peu partout, hein, dans le monde, qui est close, et non pas Miroslav, close, mais...
Oui, tu me l'as enlevé.
Et donc voilà, et je pense que la conception, notamment Aimé Jacquet Yen du football, c'est-à-dire d'avoir des monstres de puissance défensive pour faire un bloc infranchissable derrière, est un peu passée de mode. Il faudrait juste passer le mémo aux entraîneurs français, hein, Christophe Galtier.
Ah, t'es un peu mauvaise langue, parce que là, il le fait de moins en moins.
Ouais, enfin, bon, c'est... Oui, je veux dire, il aurait un gardien normal et pas Stéphane Ruffier dans les buts, il aurait pas le choix, il faudrait qu'il attaque, parce qu'il s'en prendrait beaucoup plus, mais... Ouais. Mais globalement, le foot français, tu regardes un peu la Ligue 1, le nombre de 0-0 à la fin de l'année, il est abyssal, hein. Ouais. De 1-0, tout simplement. Alors que là, voir du foot qui tourne plus vers l'offensive... Enfin, personnellement, je préfère voir un 4-2 qu'un 2-0.
Moi aussi.
Après, c'est sûr que c'est quand même mieux si tu pouvais faire un 4-0, soyons honnêtes.
Ah, ensuite, on sait jamais ce que ça peut donner. Hein.
Mais voilà, après, c'est sûr, quand tu vois l'état de la défense...
Ah, mais l'état de la défense, il est catastrophique.
Tassanien, il est là parce que, de toute façon, c'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce qu'il y a personne d'autre. T'as Evra, il est là, c'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce qu'il y a personne d'autre. T'as que Koscielny et Rami sont là parce que c'est les deux seuls qui ne sont pas blessés. Enfin, quoique Koscielny était quand même devenu titulaire. Voilà. Mais bon, tu sais très bien que ça aurait été Sako, même Sako qui n'a pas joué un match avec Liverpool cette année. Bon, j'exagère, il en a quand même joué, mais en comparaison de Koscielny qui a fait une saison pleine avec Arsenal, de toute façon, t'aurais eu Sako parce que Deschamps, il est amoureux de Sako. Enfin, Sako, Varane... J'ai envie de dire, ça me fait autant flipper que c'est Nirami. Hein.
Moi, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner.
Devant, t'as pas de récupérateur. Ah bon, on va serrer les fesses pour que Kanté il s'en sorte bien dans ce rôle-là. Hein.
Et Pogba, et ensuite derrière, pour animer le jeu, ça dépend vraiment des matchs pour Pogba, je trouve.
Pogba, le problème, c'est que tu sais pas comment faire jouer l'équipe autour de lui. Faudrait que l'équipe soit construite autour de lui. Or, elle est pas construite autour de lui et... Et tu sais pas s'il est milieu offensif, milieu défensif, milieu relayeur. Et puis là, à côté, cette nonchalance constante. Mais ça n'empêche pas. Enfin, voilà, il a fait une ouverture magnifique, là, pour un but de Giroud. Il a fait une putain de transversale de 40 mètres, quoi. Elle était juste parfaite. Il a des éclairs de génie. C'est ce que je reproche à ces genres de joueurs-là. C'est-à-dire que... Tu te dis, il faudrait qu'il sorte parce qu'à 70e minute, il n'a pas fait une passe potable. Mais tu sais qu'il peut toujours sortir un éclair à tout moment.
Oui, ce qui permet de s'en sortir.
Mais il ne va pas forcément le sortir, c'est ça le problème. Donc est-ce c'est que ça. Tu le laisses, est-ce que tu le fais sortir? Bon, de l'autre côté, t'as Matuidi, bah est-ce qu'il va tenir physiquement jusqu'au bout? Parce que bon, il a quand même fait une grosse saison avec Paris.
Moi, je pense que les joueurs, mais quelle que soit la nationalité, arrivent épuisés à cet Euro et que du coup,
oui, et puis tu vois beaucoup de
ça va pas être top. Enfin,
t'as beaucoup de grosses stars qui se blessent au moment des compétitions. On l'avait déjà vu en 2014, on le voit régulièrement à la Copa América. Là, Messi, il ressort de blessure. C'est pas non plus une surprise, hein.
Non.
Tu sais très bien qu'en plus, si tu vas loin dans la compétition, tu auras quasiment pas de vacances parce que tu vas te retrouver dans ton club à aller faire les tournées promotionnelles de ton club. Quand t'es à Paris, Barcelone, Manchester, peu importe, tu te retrouves au fin fond de la Chine pour aller vendre des maillots aux Chinois.
Ouais.
Donc, voilà, il arrive un moment, t'as des mecs, ils arrêtent quasiment pas parce que... Et avant, de temps en temps, une année sur trois, t'avais une année sur quatre, pardon, tu pouvais t'arrêter parce que t'avais ni Euro, ni Coupe des Confédérations, ni Coupe du Monde. Sauf que maintenant, ben, on a collé la Ligue des Nations hein, pour occuper le temps. Parce que tu te rends compte, au mois de juin et au mois de juillet, t'avais pas de match. Et oh, c'était une
honte. C'est ça, c'est quand même un scandale.
Voilà.
Donc, non, il y a des joueurs qui sont épuisés et qui n'ont pas le risque.
Et tu vois, bah après, t'arrives à quand t'es joueur qui repose sur un jeu très physique, style Franck Ribéry, regarde, pendant quasiment deux ans, il a pas joué, il était constamment blessé. Parce qu'il arrivait à 32, 33 ans, il était, enfin, physiquement, il pouvait plus.
Il était cuit, quoi. Voilà. Ouais.
C'est, ouais, voilà, quand on revient à la conception du sport business, comme tu le disais tout à l'heure. On l'a vu.
Bah, le but, c'est de faire du spectaculaire avec toujours les mêmes équipes pour que ce soit identifiable.
Voilà.
Le fait qu'il n'y ait que deux descentes.
Ou les Qatariens, je sais pas comment on dit, ont construit le PSG, quoi. C'est, on veut une grosse tête d'affiche qui est connue dans le monde pour aller vendre le PSG à l'extérieur. Et accessoirement gagner la Ligue des Champions.
Ou pas.
Ouais, bah pour en revenir à l'équipe de France, je crois que il faut tout miser sur l'attaque. Hein. On a quand même deux lignes titulaires potentielles, quoi.
Ouais.
Griezmann, Giroud, Payet, et de l'autre côté, tu peux mettre Martial, Gignac, comment, quoi.
Ouais, mais en face, j'ai quand même peur du bus, quoi.
Bah,
les mecs, ils mettent...
le truc, c'est qu'on a des joueurs qui peuvent percer les défenses, quoi. C'est ça l'avantage.
Pas s'ils sont à 8 derrière.
Ouais, mais. Un Dimitri Payet, il est très doué balle au pied, il te fait des magnifiques ouvertures. Comment il est capable de passer au travers de 3-4 joueurs et de déborder parfaitement. Bon, bah, t'auras un Giroud ou un Gignac qui restera dans la surface, hein, qui fera pas comme Benzema repartir à 40 mètres de but.
Oui, c'est ça.
Oula, il y a des défenseurs, moi je touche pas les défenseurs, hein.
Et... Ah bah oui, mais sinon je suis pas visible à l'écran si je touche pas les ballons.
Et voilà. Tu te rends compte quand même la chance qu'on a, on a une équipe qui reste compétitive, alors que ben, tu te passes de Franck Ribéry, hein, qui est toujours, je veux dire, il pourra avoir sa place dans l'équipe. Karim Benzema, qui a sa place dans l'équipe, je sais toujours pas pourquoi, je l'ai jamais su. Hein, c'est pas nouveau, hein, je comprends pas pourquoi Benzema est en équipe de France personnellement. Mais Ben Arfa, tu te rends compte, rien que ces trois joueurs-là, tu aurais une troisième ligne d'attaque titulaire potentielle. Quoi. C'est hallucinant. Ouais. Plus tu es blessé, Lassana Diarra... Non, parce que je veux pas dire que Varane est un titulaire potentiel, hein. C'est-à-dire que même contre Retafe, Zidane, il est pas trop chaud pour la lignée titulaire, alors que c'est dire, hein.
Mais, enfin, si tu veux, moi, je pense qu'ils vont vraiment mettre le bus derrière, et que du coup, enfin, honnêtement, les Roumains, les Albanais, ou les Albanais, je crois, ou les Albaniens, non, ça va être les Albanais. Oui. Les Albanais, ouais. Bah, les Roumains, comme les Albanais, vont mettre 10 mecs devant, quoi. 10 mecs derrière, je veux dire.
10 mecs devant, ça nous arrangerait. Alors, on finirait avec un 7-6, hein, je pense, mais...
Et je pense que la France, malgré ce qu'ils disent, a la pression. La pression, elle n'est pas sur la Roumanie, elle n'est pas sur l'Albanie, elle n'est pas sur la Suisse.
Et j'ai peur que quelque chose comme... Tu vois que Didier Deschamps se réfère trop à 98, j'ai l'impression. Il essaye vraiment de faire tout comme en 98. Sauf qu'en 98, t'avais pas le wifi, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas...
C'est vrai.
Là, et tu... ben voilà, ils se disent, ça y est, on va se couper du monde à Clairefontaine et tout ça, mais tu sais qu'ils sont tous sur leur téléphone portable, quoi.
Donc ils sont ça dépend courant. Des règles, mais...
Ben, tu voyais bien que Giroud, il avait beau dire, ça m'atteint pas, et c'est vrai que mentalement, le mec, il est indestructible mentalement. Mais tu l'as vu quand même quand il a mis son but contre Metz, hein, c'est le message qu'il a envoyé au public, là, hein, c'est... Vous pouvez toujours gueuler. Ouais. Enfin voilà, et c'est que j'ai peur que si ça se déroule pas bien, vu que la tendance française c'est de tout de suite cracher et descendre le truc, Ouais, comme tu dis, ils ont la pression et que ça décuple leur pression et que finalement ça les paralyse plus qu'autre chose. À se dire, ouais, mais si on fait une connerie, le public va nous tomber dessus, etc.
Et enfin, sérieusement, un 0-0 contre la Roumanie ou un pauvre 1-0, ce sera gagné, ça le libérera un peu.
Ah, il faut pas faire un 0-0. Même si c'est, je crois, que notre score de référence contre les Roumains en compétition officielle. Mais...
Oui, c'est ça. Mais.
Et d'un autre côté, quand tu vois leur match de préparation, ils ferment plus le jeu comme ils le fermaient, les Roumains. Ils en ont quand même mis 5 contre je sais plus qui, là, en préparation. Ils prennent des buts, mais ils attaquent. Et c'est rassurant dans le sens où tu te dis, ouais, ils font plus le bunker dans leur zone de réparation. Mais de l'autre côté, quand tu vois notre défense, tu te dis, ouais, mais il vaudrait mieux qu'ils attaquent pas, quoi.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est que l'Albanie et la Suisse, on a l'habitude de les jouer ces dernières années.
Puis la Suisse, on reste sur un côté, on les a tapés 5-2 à la Coupe du Monde, ça va être tranquille, faisable.
5-2 alors que normalement, il y a le sixième qui était inscrit. Faut dire ce
ouais,
qui...
et puis, oh, putain, ils étaient tellement mauvais que même Benzema l'a marqué contre eux, quoi, c'est dire.
C'est ça. Mais... Arrête de faire du Benzema bashing, là, c'est...
Non, là, je fais du Suisse bashing.
C'est ça.
Et voilà, j'ai peur que ceux qui se mettent dans la tête de se dire, ouais, ça va être tranquille, les Suisses, c'est déjà 3 points dans la poche. Ah, c'est pas évident, hein, les Suisses. Je veux dire, en 2 ans, ils peuvent proposer un visage complètement différent. Ils l'ont déjà fait entre 2 compétitions. Et en plus, bah, je pense qu'ils auront peut-être une envie de pas reprendre un 5-2 comme ils l'avaient fait, quoi.
C'est ça. Alors, je tiens à dire également que moi, il y a quelque chose que j'apprécie aussi. C'est que de ce que j'ai compris, il n'y a encore une fois pas de but en or, but en argent à la con, comme il y a pu avoir à la fin des années 90, début des années 2000.
C'était génial, cette délivrance. Ça mettait une tension extraordinaire, je trouvais. Après, c'est vrai que c'était injuste pour l'équipe qui marquait la 92e, alors qu'il y aurait du coup eu 28 minutes pour.
Moi, voilà. Moi, j'aime bien.
Mais là, on revient. C'était quoi, la 116e, je crois, ou un truc comme ça. C'était une délivrance. Et la tension qu'il y avait, enfin, je veux dire, c'était formidable.
Mais cette délivrance à la 118e, elle serait arrivée quand même, tu vois.
Ouais, mais après, t'aurais flippé. Tu te dis, putain, on a encore 2 minutes. On risque de s'en prendre.
Bah oui, mais c'est ça, le foot. Mm-hmm. Plutôt que... Alors, premier qui meurt, qu'on arrête, parce que... voilà.
Après, c'est vrai. Bon, je pense, par exemple, à la finale de l'Euro qui se joue sur un but en or. C'est pas normal, quoi.
Ben, tu vois, enfin... Mais... Même un but en argent, regarde les Tchèques qui marquent à la mi-temps des prolongations. Les Grecs, pardon, qui marquent contre les Tchèques à la mi-temps des prolongations, en 2004. Mmh. Bah, pouf, ça y est, c'est fini.
Bah oui, mais bon.
Parce que but en argent, on finit la première période, et puis il y a potentiellement la deuxième. Non, c'est pas du foot. Enfin, le foot, tu définis les deux périodes. On a toujours joué en 2 fois 15 minutes, sans but en argent, sans but en bronze, sans but en diamant, sans...
Non, il n'y a
que Ribéry qui va au but.
La prolongation n'existait pas, tu rejouais le match.
Mais voilà,
comme en Angleterre, en cup, hein. Tu rejoues le match s'il y a un match nul.
C'est pas un match nul après prolongation, le rematch?
Non, c'est possible. Pour éviter.
Il n'y a pas de tir au but.
Ouais. Enfin, il y a tir au but au terme du deuxième match, quoi.
Oui, c'est ça. Mais bon. Mais voilà, moi j'aimais bien ça. Bon, ensuite, les tirs au but me gênent pas, ça permet de conclure. L'idée de faire des tirs au but juste après, il y a une compétition, je crois, où ils le font, ils font des tirs au but juste après le temps réglementaire.
Les jeunes, ils le font, ça. Et...
Bah, au bout d'un moment, non, t'assumes, quoi. Tu vas être footballeur à un haut niveau. Voilà.
Ouais, mais enfin, tu prends les U19 ou quelque chose comme ça, ils jouent que 80 minutes, par exemple. C'est pas.
Voilà.
J'ai envie de dire, il n'y a pas de système forcément parfait. Non. C'est comme le but à l'extérieur, c'est aussi une forme d'injustice, quelque part, mais. Et tu te rends compte.
Et ça, je peux comprendre sur un aller-retour.
Ouais, mais tu vois, sur un aller-retour, maintenant, on est arrivé à une situation où les équipes, elles flippent toutes les deux au match aller. Parce qu'en fait, si tu reçois au match aller, tu gagnes 1-0, t'ouvres le score au match retour, t'obliges l'adversaire à en mettre 3, quoi.
Ouais.
Donc, c'est quand même, hop, t'as des équipes maintenant, regarde le nombre de 0-0 que tu tapes en match aller parce que plus personne n'ose jouer.
Ouais.
Donc,
Et du coup, plus personne n'ose jouer au retour.
Bah, du coup, ouais, voilà, on se dit, on fait un match pour rien, quoi. Le match aller devient pour rien et on joue comme s'il n'y avait pas de match aller-retour sur un match sec, le match retour. C'est bizarre.
Ouais.
C'est bizarre, mais bon, il n'y a aucun système qui est parfait, hein, ça, faut faire avec. Et puis, ben, voilà. Bon. Moi, je sens qu'on va avoir un bel euro. J'espère qu'il n'y aura pas des abrutis qui penseront que ça serait fun de jouer avec une Kalachnikov ou de la TNT au milieu de la foule.
Tu l'as dit juste avant moi, enfin j'allais le dire juste après, et voilà, Je donne toute ma confiance aux forces de l'ordre parce que je reste persuadé qu'elles font un boulot énorme, que ça les emmerde, 7 euros, surtout dans le contexte actuel, qu'ils sont en train de morfler, ils sont déjà épuisés et ils font un boulot monstrueux. Et ça, vraiment, pour ça, je les en remercie.
Ah oui, non, mais c'est clair. Je veux dire, que ce soit les forces de l'ordre ou même les forces de secours, enfin les pompiers, quand ils se retrouvent à devoir faire. Ben voilà, comme là, on a eu le 13 novembre dernier, je veux dire, là, ils sortent quand même des intempéries, donc dans la région parisienne, je veux dire, les pauvres,
Ouais.
enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup de courage d'aller se frotter à tout ça. En plus, voilà, tu restes la question des fan zones. Déjà, j'arrive pas à comprendre l'intérêt des fan zones là qu'ils ont créé. Je crois que c'est en 2014 que tu les as vus vraiment apparaître pour la première fois, vraiment de manière.
Elles existaient déjà.
Ouais, mais
Elles existaient déjà. Enfin, la Coupe du Monde 2010, t'avais déjà un écran au Trocadéro, alors que la Coupe du Monde était à l'autre bout de, opposé par rapport à
ouais,
l'équateur
mais
à
là
Paris,
c'est
quoi.
vraiment la fan zone, c'est venez tous là où on va pouvoir mettre tous nos sponsors, tous nos boutiques, vous achèterez tous nos trucs. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai que la question se pose des fan zones dans le contexte actuel, quoi.
Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que le président des hôpitaux de Paris n'ait pas été prévenu. Ou il y a un président d'un hôpital de Paris, là j'ai lu ça récemment, qui n'a pas été prévenu.
Deux.
Qu'il y avait une fan zone pas loin de son hôpital.
Ah.
Mais bon.
Ouais, non, mais après, tu vois, la question, c'est que maintenant, tu te retrouves avec des maires ou des préfets qui sont là dans certaines villes ou régions à se dire, est-ce qu'on maintient la fan zone ou pas? On va
C'est
peut-être la
ça.
fermer pour certains matchs. Et tu te rends compte, je veux dire. Mais après, d'un autre côté, c'est les mêmes préfets qui t'interdisent maintenant sur 19 déplacements dans l'année pour un club, genre 15 fois, ils n'ont pas le droit à les supporters parce que.
Ça.
On n'arrive pas à gérer 500 Messins, Nantais, Rennais ou je sais pas qui, 1000 qui vont en déplacement quelque part. Non, mais il faut arrêter. Il y a le principe de précaution, c'est très sympa, mais des fois on le pousse un peu trop loin quand même. Hein.
Ouais.
Enfin voilà, ça sera une grande fête, on y croit, on y croit, on y croit.
Ben j'espère, ouais, non, non, moi je. Quels sont les. Il reste quelques minutes d'enregistrement, 4 pour être précis. C'était mon côté TJP. Est-ce qu'il y a des matchs qui, toi, en tout cas dans les matchs de poule, hein, on en reparlera probablement à
France-Albanie,
la
ça
fin
me
des matchs
fait.
de poule. Et ouais, justement,
Ah ouais.
est-ce qu'il y a des matchs qui toi, t'intéressent là-dedans?
Bah, j'ai envie de dire oui et non, parce que le problème, c'est on essaie de tellement équilibrer pour éviter des grosses rencontres. Maintenant, c'est sûr que la Belgique-Italie, par exemple, c'est quand même. Ça peut donner du lourd. Hein. À Angleterre-Pays de Galles, par rapport au contexte des deux nations. Ou l'Allemagne-Pologne d'ailleurs, hein, c'est aussi la même chose. Ça peut donner des bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que on évite quand même de mettre deux grosses nations dans la même poule, ou alors que deux grosses nations, parce que hein, il faut s'assurer qu'elles passent.
Mais
Et c'est un peu dommage, mais je te sens bien là, te triper à l'idée de regarder Islande-Autriche, hein, vous.
ah, ça me fait grave plaisir.
Islande-Hongrie,
Ça,
Islande-Autriche, et c'est quoi déjà le troisième? Portugal-Islande.
ouais. Mais moi, je
Si
maintiens
les
que si
Portugais
l'Islande est
vont pas en
là-bas, c'est.
huitième, hein, franchement.
Moi, je maintiens que
Islande, ça peut
le.
être ça peut être un bon pari. Hein. Ils
Ouais,
iront pas au bout, mais ils peuvent.
huitième ou quart. Huitième ou
Quart, c'est
quart.
pas impossible. Hein. Ils sont en feu là, les Islandais. Ils ont une poule où ils peuvent s'en sortir, hein, franchement.
Et honnêtement, j'ai regardé le documentaire de l'équipe Explore, je sais pas si tu l'as vu ou pas, sur la modernisation des stades en Islande, sur la façon dont le football a évolué, et c'était assez intéressant. Et en fait, l'Islande, pardon, n'est pas là par hasard.
Non, mais j'ai pas vu le documentaire, mais non, mais franchement, voilà, ils peuvent aller loin, enfin loin. Je veux dire, déjà pour eux être dans la compétition, c'est extraordinaire, mais ils peuvent vraiment sortir de la poule parce que bah, voilà, l'Autriche et la Hongrie, ils peuvent finir devant. Peut-être pas le
Ouais.
Portugal, mais les deux autres, oui.
Ah ouais.
Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des affiches hyper.
Je pense qu'il y en aura à partir des huitièmes, comme il y a plus de pays qualifiés qu'il y en avait il y a encore 4 ans. Je pense qu'il y en aura à partir des
Mais moi,
huitièmes.
je regrette hein, l'Euro à 16. Franchement, je le regrette. Hein, ça faisait des très très grosses rencontres dès les matchs de poule, quoi. C'était passionnant. Donc,
Ouais, mais c'était peut-être un peu trop. T'avais certes 6 matchs au lieu de 7 pour les équipes, mais tu pouvais quasiment pas faire tourner du coup.
bah si, toujours la même chose. Il fallait gagner les deux premiers matchs de poule.
C'est ça.
Mais bon, bref, voilà. Donc, nous allons nous retrouver assez rapidement, hein, n'est-ce pas, Yann, pour analyser les débuts des matchs de
Et
poule.
Mais tout à fait. Alors, comment nous fonctionnerons? En gros, nous allons faire, comme il y a 3 journées dans ces poules, on va en fait diviser à chaque fois poule ABC pour la journée 1, poule DEF pour la journée 1. Donc voilà, on n'a pas le temps de parler de tout. On réduira un peu le format aussi, parce que là, on était un peu long sur les
Ah
deux
ouais, mais
premiers
c'est
coups
le
de pod.
début.
Voilà, c'est ça.
Beaucoup de choses à voir.
Moi, j'aime bien le début.
Voilà.
N'attendez donc pas non plus le pod le soir même. Hein, voilà,
Ah, on va pas publier à minuit, hein.
non, 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 c'est ça. Puis voir ça le soir en Angleterre-Russie, j'ai un peu autre chose à foutre le samedi soir que de regarder en Angleterre-Russie, tu vois.
Et puis donc voilà, hein, on va se faire plaisir durant un mois. Et sachez que Gossip Girl adore aussi le foot, et c'est pour ça qu'elle vous dit XOXO, bisous
Salut Nico,
Et
salut tout le
Donald
monde.
aussi aime le foot, c'est pour ça qu'il vous dit coin 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 coin.
Ah non, il faut faire coco, 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 rico.
Oh joli. Allons-en.